Yeah, okay, let's go.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Entre les pages. Avec votre radio préférée, Radio G, nous avons décidé de regarder plus précisément ce qui se passe à la maison Julien Gracq en ce printemps 2021 avec l'accueil de trois auteurs en résidence, Martin de la Soudière, Aliona Gloukova et Jean d'Amérique. Résultat, quatre émissions hebdomadaires. Après les avoir entendus tous les trois ensemble ce soir, je vous propose un rendez-vous avec Martin de la Soudière.
Je continue mon aventure avec la maison Julien Gracq et aujourd'hui, c'est à une rencontre avec Martin de la Soudière que je vous invite. Bonjour Martin de la Soudière.
Oui, bonjour. Bonjour, bonjour.
Nous vous avons entendu il y a une semaine avec Aliona Gloukova et Jean d'Amérique. Aujourd'hui, j'aurais aimé que l'on en sache un peu plus sur vous, bien que vous en révéliez déjà des éléments dans votre dernier livre « Arpenter le paysage », mais tout le monde ne l'a pas lu. Alors on va peut-être commencer par une des premières questions. Vous êtes né où ?
Alors je suis né en Charente-Maritime, je suis très fier, comme ça j'habite Paris, mais je suis né quand même en région, comme on dit maintenant. Alors je n'ai pas vécu, mais je ne me revendique pas vraiment de cette région, mais je suis quand même assez fier d'avoir quelques petites racines charentaises, petites racines.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à faire des études de géographie?
Alors c'est très simple, c'est un appétit pour les lieux, pour les petites régions, et qui est venu en fait de deux sources. D'une part, mon enfance dans les Pyrénées, qui nous permettait à mes frères et sœurs et à mes parents de nous emmener de plus en plus haut, de plus en plus loin, dans les petites vallées jusqu'aux moyennes montagnes, voire ensuite les hautes montagnes. Donc déjà une appréhension et un désir de me promener. Ensuite les camps scouts, parce que j'étais scout, et donc là aussi découverte de la nature, et puis des lectures comme celle de Giono, par exemple. Jean Giono m'a énormément marqué quand j'étais adolescent, quand j'avais 15 ans, et donc je pense que ce sont ces trois choses qui ont permis, enfin qui ont donné finalement, en fait, j'étais très bon en géographie, disons que c'était la matière que je préférais plus que le latin, plus que le grec, plus que l'histoire, plus que les mathématiques. C'était vraiment la géographie où j'étais excellent, du moins c'est très prétentieux de le dire évidemment, mais j'excellais en vérité en géographie. C'est vraiment quelque chose que j'avais depuis pratiquement l'adolescence. Ça ne m'a jamais quitté, en fait.
Mais la conscience de la géographie, hein, parce que s'engager dans des études de géographie, c'est qu'on a déjà quelque chose, qu'il y a déjà quelque chose qu'on a conceptualisé, presque. Ça a commencé quand? Parce que dans Arpenter le paysage, on voit des photos de vos carnets.
Oui, exact.
Voilà, vous preniez des...
Exact.
Vous teniez déjà des carnets. Ça a commencé à quel âge, ça?
Ça a commencé à 12 ans. 12-13 ans, enfin, la préadolescence, on va dire. Et c'est amusant parce qu'on était donc une grande fratrie donc de plusieurs frères et sœurs. J'étais rigoureusement le seul à faire les mêmes balades, les mêmes promenades, les mêmes excursions. J'étais le seul à tenir un cahier. Et en fait, j'ai toujours été, même par rapport à la géographie du Massif central sur lequel j'ai travaillé, j'ai toujours tenu des cahiers. C'est plus fort que moi. Je suis une espèce d'écrivain, je suis un peu graphomane, ce qu'on appelle un peu graphomane, parce qu'il n'y a pas que la géographie que j'écrivais. Il y a également mes états d'âme, étant plus âgé, vers 20 ans, 22 ans, je tenais des cahiers, je les ai encore gardés, donc je suis graphomane, dont graphomane pour la géographie.
Parce que quand on lit ces reproductions de carnets, vous étiez très jeune, c'est déjà très détaillé, c'est déjà, il y a déjà une mécanique d'écriture presque scientifique, c'est-à-dire une prise de notes rigoureuse.
Tout à fait.
Je suis à tel endroit, il est telle heure, je vois ça. C'est vraiment assez... c'est très étonnant, en fait,
J'ai envie de dire, la raison, évidemment, ultime, je ne la connais pas. J'ai envie seulement de dire, bon, c'est une explication intermédiaire, si on peut dire, j'avais ça dans mes gènes. Véritablement, ça me définit. Et alors, c'est amusant aussi, je suis assez fier, parce que ni mon père, ni ma mère, ni mes autres frères et sœurs n'avait ce même tropisme, ce même appétence pour la géographie. C'était quelque chose qui me caractérisait. Et très longtemps, j'ai hésité à faire des études de lettres classiques et de géographie. Et après moult hésitations, je me suis dit, ce qui est moi, ce qui est le plus moi, c'est la géographie et pas le latin, le grec, les maths ou l'histoire, etc. C'est vraiment, ça me définissait. Alors au début, évidemment, ce n'était pas, pour répondre à votre question, ce n'était pas pensé, ce n'était pas conscient, mais très vite, j'avais les outils et la méthode de la géographie que je me suis, d'une certaine manière, inventée à travers la montagne, à travers mes camps scouts et à travers mes lectures.
Parler déjà d'avoir quelque chose dans ses gènes pour un scientifique, bon, c'est quand même un peu... étrange.
Oui, mais c'est
bon,
étrange.
Non, reconnaissons, autorisons-nous ça. Cela. Mais est-ce qu'il y a une, dans votre enfance, une personne, je ne sais pas, un enseignant, un maître, un prof de géo qui a quand même déclenché ou fait comprendre?
Oui, il y en a un. Comme souvent, il y a un professeur, il n'y en a pas deux, il y en a un. J'étais en terminale, non, j'étais en première. Il était étranger. Il ne connaissait pas la France. Il nous avait raconté qu'il avait passé deux étés entiers à vélo, à bicyclette, à faire le tour de la France pour pouvoir parler véritablement des régions dont il nous parlait, ou de l'habitat, ou de la population, ou des rivières, ou des montagnes, etc., pour vraiment les avoir vues. Et ça m'avait fasciné. Je me suis dit que la géographie, ça commence avec les mollets, ça commence avec la bicyclette, ça commence avec l'escalade, éventuellement l'excursion. Sinon, pas droit à la parole, comme disait l'autre. Si on ne connaît pas in situ la région dont on parle, alors évidemment pour l'histoire c'est différent, on ne peut pas y être, mais la géographie on peut la découvrir, bien, si on ne l'a pas vécu, j'allais dire physiquement, corporellement, de manière sensitive, comme dit Mao Tse-Tung, sans enquête, pas le droit à la parole, il disait. Donc, sans aller sur le terrain, pas le droit de faire des cours de géographie. Et ce prof m'a vraiment énormément marqué. J'ai voulu prendre modèle un peu sur lui, quoi.
Et donc, on vient de commencer cet entretien par l'enfance.
Oui.
Et puis, une des questions que je me posais aussi, parce que je vous écoute, et je me dis, mais vous êtes encore en activité professionnelle ?
Non, je suis retraité depuis 10 ans.
Oui.
Mais je continue à travailler, alors moins intensément, de manière moins institutionnelle, il y a moins de réunions, il n'y a pas de rapport d'activité à faire, je ne suis pas canalisé dans tel ou tel domaine, alors qu'avant j'étais quand même relativement canalisé avec d'autres camarades dans tel ou tel domaine, autour du rural, mais d'une manière très large, l'environnement et tout. Maintenant, je peux dire, je n'en fais qu'à ma tête. J'ai arpenté le paysage, donc mon dernier livre, Poète, géographe et montagnard, mais en fait, je n'ai pas été subventionné, personne ne me l'a demandé, l'institution, c'est-à-dire le CNRS et les l'école des hautes études m'ont laissé une paix royale, mais évidemment ils ne m'ont pas payé, il faut dire les choses.
Le prix de la paix.
Ben oui, c'est le prix de la liberté, si on peut dire, et donc j'ai fait absolument ce que je voulais, sauf que, évidemment, je suis passé d'une tutelle à une autre, avant c'est une tutelle plutôt institutionnelle, donc en gros CNRS, école des hautes études, à une autre tutelle, non moins contraignante, non moins exigeante, qui est la tutelle de l'éditeur, simplement. Donc c'est l'éditeur qui m'a recadré, qui m'a corrigé, qui m'a suggéré les titres, inverser les choses, etc. C'est eux qui ont fait vraiment le boulot. Alors qu'avant, c'était plutôt donc mon lieu de travail, on va dire. Mon milieu de travail.
Parce que donc, le livre est publié aux éditions Anamosa.
Oui.
Petite maison d'édition.
Oui.
Par contre, qui a publié un livre magnifique. Enfin, en tant qu'objet, déjà, il est très beau. C'est volumineux. C'est un beau papier avec cette couverture à rabat.
Oui, tout à fait.
Il y a vraiment un bel objet. Et comme vous l'exprimez, ce que j'entends, c'est peut-être une petite maison d'édition, mais c'est une maison d'édition qui fait son travail, c'est-à-dire qui vous a accompagné
vraiment
dans la réalisation de ce livre-là.
Tout à fait. Y compris le titre, d'ailleurs, le sous-titre. Moi, je voulais mettre « Entrée en paysage ». C'est eux qui ont dit « Non, non, arpenter le paysage, ça sera bien mieux.
Ah » ben
et
oui.
Le sous-titre, c'est eux qui l'ont trouvé « Poète, géographe et montagnard ». Je crois que ça reflète exactement ce qu'il y a dans le livre. Et ils ont eu un travail. Alors, ça dépend des maisons d'édition. Souvent, on vous laisse tomber et puis on dit « Bon, ben voilà, ça marche pas, on prend ou on laisse. » Et là, ils m'ont accompagné, pas tout du long, mais surtout vers la fin. Les 6 derniers mois, ils m'ont accompagné véritablement, comment dire, pied à pied et page à page, presque d'une certaine manière. Et ça m'a énormément rassuré, parce que parfois l'auteur, il sait pas bien où il va, est-ce qu'il va trouver un public, etc. Et il a trouvé un public, j'ai eu une chance énorme. C'est la première fois, alors ça paraît prétentieux de ma part, mais c'est la première fois que j'ai fait un bouquin en gros de sciences humaines, entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais qui marche aussi bien. Donc j'ai eu beaucoup de chance et je pense qu'il a trouvé pour le coup son public.
Bon, je parlais de scientifiques et puis en fait j'ai l'impression que ce livre il génère des ondes.
Oui, sans doute, sans doute.
Quand on le voit, quand on l'a dans les mains, on est attiré par ce livre, déjà, enfin, il y a quelque chose. La première fois que je l'ai eu dans les mains, je l'ai ouvert et je suis tombé sur le chapitre qui concerne la Mayenne et Jean-Louis Tassard. Et je sais pas, j'ai commencé à lire, et en fait, je me sentais bien, alors pas tant par rapport au sujet, mais voilà. Et je pense qu'ils ont réalisé un objet véritablement... assez étonnant, parce qu'il y a un choix graphique sur la première page,
déjà,
qui une couverture donc, qui est coupée en diagonale, avec un rose. Alors, je suis daltonien, pour moi, c'est un rose.
Hein, c'est un rose.
Bon, je suis rassuré. Donc, un rose qui est sur le champ plutôt gauche. Sur le champ droit, c'est plutôt un triangle avec un recouvrant jaune, et puis un noir et blanc au-dessus. Enfin, il y a une couverture qui est vraiment
un
travail graphique. Qui est très très beau.
Tout à fait. Mais il a quelque chose, j'allais dire, de confortable, ce livre. C'est-à-dire que quand on rentre, on est en pays de connaissance et en même temps, on nous propose d'aller un peu plus loin et donc d'examiner tous ces auteurs et puis ces montagnes, finalement, à l'aune du paysage. Et toujours la question du paysage. Et également, je crois que c'est important, au début, j'hésitais. Je ne voulais pas parler de moi. Et c'est l'éditeur, ça recommence. Et il dit, ah Martin, au contraire, parce que je leur avais dit que j'avais des notes, j'ai dit que j'étais graphomane, que j'avais des notes de montagne, d'enfance ou d'adolescence, et je ne sais pas bien quoi en faire. J'hésitais, je me suis dit, mais non, il ne faut pas trop d'ego, il faut laisser la parole à Grac, à André Dautel, à Pierre Sansot et à Philippe Jacoté, Dieu son âme. Et donc, je ne voulais pas me mettre dedans. Et au contraire, quand j'ai voulu parler, quand j'ai émis l'hypothèse éventuellement de mettre des souvenirs personnels, ils ont bondi de joie en disant mais oui, c'est absolument ça qu'il faut, surtout au début, comme introduction, ça peut être très bien. Je veux dire par là que, je peux le dire quand même, c'est que en sciences humaines, en sociologie, c'est pas pour dire que je suis original, mais c'est pas si fréquent que ça, de parler de soi, mais pas uniquement d'une manière allusive, mais véritablement dans un chapitre entier pour décortiquer comment vivait la période, comment vivait le lieu, ou les lieux, là en l'occurrence les montagnes, et ce désir, enfin du moins cette envie de parler de moi, mais pas, j'espère, pas d'une manière égotique et pas d'une manière prétentieuse. En fait, je l'ai découverte avec Ligne secondaire, qui est un livre donc avant, qui a 8 ou 10 ans. Et dans Ligne secondaire, je parle de mes petits voyages, des petits voyages, pas des grands voyages, pas Saint-Jacques-de-Compostelle, pas du tout, mes petits voyages, en Lozère, dans la neige, dans les Pyrénées aussi déjà, et puis mais des voyages aussi, comment dire, un peu oniriques à partir de, pas oniriques, mais un peu fictionnels, à partir de certaines de mes lectures. Et, mais là, je me mettais véritablement en scène, et c'est ça qui m'a déclenché le fait d'oser finalement. Parce qu'en sciences humaines, il faut être cartésien, il faut être rigoureux, statistique, ou pas toujours statistique, mais des interviews, des analyses, c'est de la théorie. Alors j'espère, je pense qu'il y a un peu de théorie là-dedans, mais c'est pas vrai, véritablement ce qui prédomine. La théorie, je pense, elle vient après que le lecteur d'abord s'imprègne des auteurs et des lieux, donc la montagne en l'occurrence, et ensuite se fasse sa petite sauce, sa petite tambouille, et que lui-même théorise à partir, entre autres, ça dépend de sa formation évidemment, à partir de ce qu'il connaît, de ses références finalement. Il peut aller plus loin à partir de ses références ou faire des comparaisons de lieux ou de personnages ou de situations. Voilà.
Cette première partie crée une intimité avec vous, entre le lecteur et vous. C'est-à-dire que, alors, pour moi, c'était plus que de l'intimité. Il y a aussi de la réminiscence dans votre livre, il y a des photos. Et moi, je suis ces photos qui sont là, la 15 chevaux, les photos de famille en randonneau en noir et blanc, les gamins en short. Moi, j'ai les mêmes J'ai les mêmes. Hein.
Oui,
j'ai,
oui, oui.
Je suis enfant, moi je peux être en photo là-dessus.
C'est amusant ce que vous dites parce que très souvent, je reçois des lettres, enfin je recevais des lettres ou des mails, mais plutôt des lettres en disant ah oui, moi aussi j'ai vécu, étant enfant, j'ai vécu le même genre d'émotion et même dans les mêmes régions des Pyrénées, etc. Donc ça veut dire que finalement l'intimité, si elle est partagée, c'est plus de l'intimité, c'est autre chose encore que de l'intimité, c'est partagé. Donc ça fait un socle commun, ça fait des références communes qui permettent d'aller plus loin que uniquement son petit ego et son petit soi.
Et à partir de là, on ne lit plus le livre de la même manière.
C'est-à-dire
que en fait, on lit presque son livre à soi.
Oui, tout à fait.
Il y a des choses qui se refabriquent dans la tête. Et moi, j'ai trouvé ça, alors sur cet aspect-là, sur cette introduction, et effectivement, moi je suis d'accord avec votre éditeur, je pense qu'il aurait été terriblement dommage qu'on n'ait pas, par exemple, la description de ces randonnées où on part le matin, vous étiez le petit frère,
oui,
donc il fallait
suivre, tout à fait.
Il fallait mériter ses galons.
Oui, oui, absolument.
Voilà, donc,
absolument.
D'une année sur l'autre, on accédait à un nouvel effort.
De plus en plus haut,
Donc ça aurait été dommage de ne pas, pas avoir
aussi.
Ça.
Je pense aussi. Et également, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le paysage, là, on va pas théoriser, mais le paysage, le sentiment paysager, comme dit l'autre, ou la géographicité, enfin le sentiment paysager, très souvent, il s'origine, si on peut dire, c'est pas un joli terme, dans l'enfance.
Oui.
Parce que dans l'enfance, on se crée des modèles, on se crée des images, on se crée des expériences. Alors toute sa vie, on va pas forcément les chercher, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, elles vous marquent. Éventuellement, on va essayer de les retrouver, mais à défaut, au moins, elles vous marquent en termes de type de paysage, de type d'ambiance qu'on cherche à retrouver, ou du moins à répliquer d'une manière ou d'une autre, d'une manière un peu différente évidemment, mais des ambiances qui sont pas, parce qu'on ne peut jamais avoir des ambiances neuves, parce qu'elles sont toujours tributaires des films qu'on a vus, des livres qu'on a vus, mais également de l'enfance. Et il y a des très jolies formules de Gilles Lapouge qui dit la géographie, c'est l'enfance même. La géographie, c'est l'enfance même. Donc il y a quelque chose de très très fort entre l'enfance et le paysage.
Dans notre première rencontre, j'avais donc cité le titre, j'avais dit Arpenter le paysage, vous avez insisté sur le sous-titre, poète, géographe et montagnard. Vous venez de dire que ce sous-titre était aussi une réflexion de votre éditeur, que vous défendez ardemment, puisque dans l'émission, la première émission, vous êtes réintervenu vivement en disant attendez, le sous-titre poète, géographe, montagnard, c'est important. En quoi important ?
Alors, c'est important, tout simplement parce que l'un des buts, pas le seul, l'un des buts, ou du moins l'un des fils conducteurs du bouquin, c'est de montrer qu'il n'y a pas de bonne perception, de vraie perception, d'authenticité du regard sur le paysage, mais que chacun, chacune, à sa manière, notamment les poètes, les géographes ou les montagnards, mais il y en a d'autres, les paysagistes également, je ne l'ai pas mis en sous-titre, eux-mêmes, chacun a une perception, une définition du paysage qui n'est pas la même, et une manière d'entrer dans le paysage, d'arpenter le paysage qui n'est pas exactement la même. Et cette diversité qui m'a plu, dans la mesure où j'ai remarqué très souvent que la plupart du temps autour du paysage sont des paysagistes qui s'occupent, qui parlent au paysage, aux paysagistes, les géographes qui parlent aux géographes, les écrivains qui parlent aux écrivains, et donc j'essayais de faire des ponts entre les trois. Alors c'est pas toujours bienvenu, c'est pas toujours évident de faire des ponts, mais quand même, notamment entre, comment dire, par exemple, je prends un exemple, les paysagistes qui rentrent dans le paysage, qui essaient de l'aménager, ben finalement ils sont pas tellement différents d'un Jean-Loup Trassard qui n'arrête pas de circuler dans son paysage, dans son territoire, et finalement, mentalement, il le modèle, il le fabrique, il le photographie aussi, donc il est paysagiste, sans le savoir d'une certaine manière. Jean-Loup Trassard et les paysagistes, ils ont une démarche, finalement, d'attention et de respect des lieux et du territoire, qui est relativement semblable, par exemple.
Dans votre travail d'écriture, vous fabriquez des néologismes et vous revendiquez la dénomination de massif centralien.
Oui, oui.
Alors, vous êtes né dans les Charentes-Maritimes.
Oui, tout à fait.
Votre enfance dans les Pyrénées.
Oui.
Et puis, il y a cet aimant qui semble vous attirer, le massif central, jusqu'à donc vous nommer massif centralien. C'est quoi cette
attirance ? J'allais dire, alors c'est très prétentieux ce que je vais dire, que je rappelle, ou je signale, je rappelle que Julien Gracq soi-même a des pages bouleversantes sur le Massif central et qu'ils sont, il a écrit sur les Ardennes, il a écrit sur le Val-de-Loire, sur les Mauges un petit peu aussi, et sur beaucoup d'autres endroits, notamment dans les carnets du Grand Chemin, mais on sent qu'il a une attirance particulière, en particulier pour l'Aubrac et les Cévennes, mais beaucoup sur l'Aubrac, la Marjorie un petit peu moins, et donc je ne veux pas dire que je sois dans les traces de Julien Gracq, mais pourquoi je dis massif centralien ? Parce que, au sens large, l'endroit où j'ai travaillé, c'est-à-dire le Mont Mézenc, la Margerie de l'Aubrac, ça fait modèle, c'est un modèle, un type de. C'est-à-dire, c'est les hauts plateaux, 1200 mètres d'altitude, beaucoup de neige, une vie malgré tout assez précaire, mais où les gens ne sont pas complètement partis. Donc, c'est des plateaux qui sont quand même encore vivants, avec des troupeaux de vaches, avec des gens qui sont encore là, avec des écoles plus ou moins fermées, mais plus ou moins ouvertes également. Et donc, tout le Massif central est un peu résumé. Ces régions-là résument tout le Massif central. Et finalement, qu'on prenne le nord de l'Auvergne, une partie de l'Allier, la Haute-Loire, la Haute-Ardèche ou l'Aveyron, on trouve les mêmes ambiances, les mêmes cultures, en gros, à peu de choses près, la pratique de l'Occitan également, enfin encore maintenant, un tout petit peu, mais quand même la pratique de l'Occitan, l'habitat rural aussi, assez rudimentaire, mais quand même très beau, en granit ou en basalte, ça dépend, et donc massif centralien, c'est-à-dire que je me réduis, du moins la Margerie de l'Aubrac symbolise le reste du massif central, finalement c'est ça, d'où ce néologisme, effectivement, qui est assez... assez curieux, on va dire. Oui. Mais curieusement, j'ai remarqué, mais là, ça nous entraînerait un petit peu trop loin, que beaucoup d'amis, je vous disais qu'il y a pas mal de gens, pas mal de lecteurs qui m'ont envoyé des lettres en me disant « Oui, ça me fait penser à... » Et très souvent, ils disent « J'habitais à Nasbinal, j'habitais à l'Aïeul, je fréquente souvent tel ou tel massif dont vous parlez, etc. » Donc, ça veut dire que le Massif central attire d'une manière... très particulière, que ne font pas les Alpes, que ne font pas les Pyrénées, que ne font pas la Bretagne, d'une manière très particulière. Il y a une espèce de vibration dans le Massif central, il y a quelque chose de très particulier, mais je ne pourrais pas le définir, sauf à être poète, comme Julien Gracq par exemple, mais je ne suis pas à même de le définir. Mais je pense qu'il y a quelque chose, j'aime pas l'expression, une espèce d'identité, ça fonctionne, il y a une espèce d'identité, on va dire, régionale, qui est vraiment très très forte, et n'oublions pas également, c'est anecdotique de le dire, mais c'est au centre de la France. Enfin, plus ou moins le centre-centre, c'est plutôt le Cher, Bourges, etc., le centre géographique, mais ça on s'en fiche. Par contre, le cœur identitaire et le cœur vraiment géographique de la France, c'est le Massif central, donc c'est pas rien non plus. Oui. N'oublions pas également qu'il y a des volcans.
Tout à fait.
Ça, c'est pas neutre.
Bien sûr.
C'est pas neutre.
Bien évidemment.
C'est la seule région de France où il y a des volcans. Au point de vue de l'imaginaire, bon, c'est quelque chose d'assez prodigieux, d'une force incroyable, je veux dire, dans l'imaginaire. Bon, voilà, encore maintenant, ils sont prêts à se réveiller, c'est bien connu, et ça donne des paysages, notamment en Auvergne, plutôt Auvergne, ça donne des paysages, le Puy-Griou, le Mont du Cantal également, voilà.
Oui. Votre livre m'a amené à réfléchir, effectivement, sur la notion de géographie. Et je me suis dit, finalement, il y a un mystère dans cette chose-là, dans la géographie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on a fréquenté les bancs de l'école, qu'on a usé ces fonds de culotte sur les bancs de l'école, de la géographie, on a une vision de surplomb, à des très grandes échelles, vue d'en haut. C'est-à-dire qu'on a une vision des cartes. Peut-être presque le plus intéressant dans les cours de géographie, c'est ces cartes-là.
Tout à fait,
alors moi, c'est ces vieilles cartes qu'on voit là,
en
toile tirée. Voilà. Et puis, vous nous rappelez dans le chapitre, et vous venez d'en parler, géographie de plein vent, géographie, ça se fait avec les pieds.
Avec les pieds, ça j'aime beaucoup l'expression.
Voilà.
Géographe de plein vent, et ça se fait avec les pieds, parce que c'est peut-être élémentaire, c'est un peu comme mon prof qui pour connaître la France, il était étranger, pour connaître la France, il a pris son vélo, il a passé deux étés entiers, pareil, la vraie géographie, une géographie s'apprend véritablement avec les pieds, donc là, le géographe est relativement semblable à l'ethnologue. Donc il a la même démarche, au plus près du détail, au plus près des gens, au plus près du patois éventuellement, au plus près de leur parler, au plus près de leurs pratiques, de leurs croyances, de leurs coutumes. Et le géographe, en fait, si vraiment il va au bout de lui-même, il va jusqu'à la culture locale, la culture régionale, la culture rurale, il va jusque-là. Alors pas tous les géographes, mais disons qu'il y a un certain nombre de géographes. Alors ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a un courant, mais là on ne va pas s'apesantir là-dessus, un courant qui est en train de développer énormément, ce qu'on appelle la géographie littéraire, ou l'ethnogéographie, ou l'écogéographie, où les auteurs disent qu'il y a un mélange, ou du moins l'un et l'autre se fécondent, et qu'une certaine géographie profite de la littérature pour aller plus loin, ou du moins dans l'imaginaire et dans la compréhension des territoires, et inversement, les littéraires vont plus loin également grâce à cette ethno-géographie, ils vont plus loin que uniquement des grands berges, etc., à partir du moment où ils font véritablement la géographie sur le terrain, et bien ça nourrit leur fiction d'une manière ou d'une autre. Julien Gracq en est évidemment un très très bon exemple.
Alors ça, parce qu'effectivement, entre la vision que nous, enfants, alors moi je parle d'un temps qui est très ancien, donc, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup changé sur ce plan-là, où cette vision, cette conception de la géographie qui était une vision en surplomb, vous, quand vous parlez de géographie qui se fait avec les pieds, on passe du vertical à l'horizontal, du vaste à l'étroit, au restreint, c'est-à-dire que l'horizon, quand on fait de la géographie à pied, c'est au mieux la ligne de montagne ou lointain, mais dans la plupart des cas, c'est la colline qui est devant nous, ou la lisière d'une forêt, et c'est une approche, enfin, ça, c'est vraiment un changement, enfin, à mes yeux, un changement
d'échelle, d'échelle, entre autres.
Et presque de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les mêmes, on n'est plus dans le même espace.
Non, on est d'accord.
On n'est plus l'humain qui domine, mais on est dans l'humain qui est dedans.
Tout à fait. Hein,
c'est...
Tout à fait, oui. Et puis il y a une jolie expression, alors c'est l'humain qui est dedans, effectivement, alors là c'est commun à la géographie et à l'ethnologie, mais il y a une expression que j'aime beaucoup, alors, je ne sais plus si c'est d'un géographe ou d'un ethnologue, le détail conduit à l'universel. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on épuise le détail, on épuise, comment dire, le lieu très précis, les gens extrêmement identifiés, nommés, connus, mais qu'on va au bout de leur histoire de vie, au bout d'un lieu, au bout de l'arpenter pour le coup indéfiniment et bien le connaître, c'est à partir de là qu'on peut prendre du recul et parvenir à l'universel, et non pas à un universel de surplomb, comme effectivement ce que vous disiez, les cartes ou les photos aériennes, qui ne donnent pas grand-chose. On ne sait rien des gens, pour le coup, les photos aériennes, on ne sait absolument pas des gens, on ne les voit même pas sur la carte, alors qu'en fait, ils sont fondamentaux. Je veux dire, les gens, ils forment, c'est eux qui... Il y avait une jolie expression d'un géographe, c'est les agriculteurs, ce sont des créateurs de formes. C'est pas beau, ça? Les paysans sont des créateurs de formes. Donc finalement, quand on voit un paysage, quand on voit une forme, c'est pas de toute éternité que le pâturage a été là, que la forêt s'est maintenue ici, c'est parce que des paysans, il y a 50 ans ou plus ou moins, ont créé, ont planté ces arbres, ont entretenu ces pâturages avec leurs vaches, avec leurs brebis, et c'est le rôle de l'homme, enfin, disons, dans le paysage, et qu'on oublie souvent, parce que très souvent, il y a une espèce de un peu de mythe de l'authenticité des paysages qui sont éternels, l'accompagnement pas, l'authenticité, tout ça, les bons paysages, le bon rapport à la nature éternelle. En fait, non, pas du tout. On se rend bien compte que le paysage, il évolue sans arrêt. Et c'est l'un des reproches qu'on a fait à mon livre, comment dire, c'est de ne pas avoir suffisamment pris en compte les évolutions actuelles du paysage. À laquelle, question à laquelle j'ai répondu, où je réponds, oui, mais on ne peut pas tout traiter. Déjà, le livre, il fait 350 pages. Déjà, j'ai 5 auteurs, plus les paysagistes, plus 2 chapitres sur 2,5 sur la montagne. Je ne peux pas tout faire.
Bien sûr.
Je
ne
peux pas tout faire. J'étais capable de le faire, évidemment, mais je n'avais pas envie. Je n'ai pas eu envie.
Pas tout faire. Être en permanence dans l'universalité, ça pose un problème, hein, de toute façon. Donc, donc là, je vous écoute parler, et puis en fait, sans avoir eu besoin de beaucoup vous cuisiner, je me rends compte que finalement, on n'est pas loin du politique. C'est-à-dire que vous parlez, vous dites l'exploration du territoire par le micro, par le proche, nous permet d'appréhender le général, l'ensemble. Et ça reprend un peu les théoriciens de l'économie du développement durable, qui parlent du local pour aller vers le global. Finalement, on a fait un peu de politique quand même dans cette émission.
Penser global, agir local, c'est la fameuse, le fameux aphorisme, mais qui est d'actualité toujours.
Eh bien, je vais vous remercier de cette rencontre. Je vais surtout vous laisser retourner travailler parce que vous êtes là pour ça.
Voilà, tout à fait.
C'était un vrai plaisir de vous rencontrer, de passer ce moment avec
vous.
Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Oui, très bien, vous aussi.
Merci,
vous aussi.
Au revoir.
Merci pour vos questions.
J'ai laissé Martin de la Soudière regagner son bureau, lui, n'est en résidence qu'un mois. Son temps est donc précieux. Vous retrouverez toutes les informations ainsi que le podcast de cette rencontre en version longue sur la page de Entre les pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 31 mars à 17h et cette fois, la conversation avec Aliona Gloukova. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis l'oreille curieuse animée par Anne-Lie. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant,
yeah, okay, let's go.
Générique.